Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 16 février 2015. Bienvenue à cette émission et merci de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, nous revenons encore sur les pourparlers d'Alger, les blocages qu'il y a aujourd'hui et que vaut le cessez-le-feu qui a été imposé aux différentes parties. Alors, nous allons voir avec nos invités. Tout d'abord, nous avons le représentant du Gatia, Sidi Mohamed Agalbaka, qui est avec moi dans ce studio. Et nous espérons avoir tout à l'heure Maître Maliki Ibrahim Maïga, représentant du collectif des ressortissants du Nord, et Boubacar Touré, membre du RPM, et également Ibrahim Ag Mohamed Assalé, membre de la coordination. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diarra est à la mise en onde.
Studio Tamani.
Alors que le cinquième round des pourparlers s'ouvre à Alger, il y a des tensions sur le terrain entre les groupes armés de la plateforme et ceux de la coordination. Hier, sept soldats de la MINUSMA ont été blessés à Tabankort. Parmi donc les casques bleus blessés, quatre sont dans un état grave. Alors, les pourparlers de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du Nord doivent sérieusement commencer aujourd'hui. Toutefois, en dépit des multiples tentatives de la part de la médiation, la situation reste toujours très tendue à Alger. Alors, cette première partie donc est consacrée à l'ambiance sur place à Alger. Sidi Mohamed Agalbaka, quel est votre avis et quels sont les retours que vous avez à Alger?
Une fois de plus, Moussa, merci pour nous avoir donné la parole. Pour ce qui est de négociations qui réunissent le gouvernement malien, la plateforme, la coordination et la médiation à Alger, nous, en tant que plateforme, nous restons optimistes. Nous pensons effectivement qu'il y a toutes les chances pour pouvoir aboutir à un accord. Parce qu'en réalité, la chose la plus difficile, ce n'est jamais de signer un accord, mais plutôt de l'appliquer. Donc, nous pensons que, vu ce qui se passe à Alger, c'est fort possible qu'on signe un accord. Mais il faut juste rappeler que la signature d'un accord ne suffit absolument pas pour résoudre les problèmes du Nord du Mali. On a vu le cas du cessez-le-feu jusqu'à présent qui continue d'être violé par la coordination et ni la médiation, ni le gouvernement malien, ni la communauté internationale n'arrivent à s'imposer.
Mmh. Alors, vous avez accusé dans un communiqué les membres de la coordination d'avoir violé le cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il en est?
Nous l'avons toujours dit, nous n'avons jamais attaqué les positions de la coordination parce que depuis le 21 mai dernier, depuis la chute de Kidal, on était obligé de nous reconstituer et on a choisi Tabankort, plus précisément les TLMC, parce que nous avons des alliés arabes, Soraipil, qui partagent la même vision que nous, c'est-à-dire la vision d'un Mali un et indivisible. Et nous ne sommes pas dans la logique d'un fédéral quelconque ni d'une autonomie. Nous pensons absolument que ce n'est pas ça la solution. Malheureusement, la coordination n'est vraiment pas fière de notre position et c'est ce qui nous coûte aujourd'hui ces attaques. Et nous, on l'a toujours dit, dès qu'ils nous attaquent, nous allons riposter. Et voilà, ils continuent d'attaquer, nous continuons de riposter. Et ce n'est vraiment pas la solution. Aujourd'hui, nous sommes vraiment prêts à aller vers la paix. Nous en avons besoin parce que tous les Touaregs que vous voyez à Tabankort ne sont pas de Tabankort. Ils sont de Kidal, ils ont été chassés de Kidal par ce même système féodal qui n'arrive pas à s'adapter à la démocratie. Il est vraiment temps que les choses changent. Mais ce que si de certain que nous n'allons jamais refuser la paix, nous n'allons jamais refuser le développement du Mali, mais que ça reste dans un Mali un et indivisible.
Alors aujourd'hui, vous accusez la coordination d'avoir violé le cessez-le-feu. Aujourd'hui, quelle est l'importance de ce cessez-le-feu-là à vos yeux?
Moi, je pense que le cessez-le-feu peut d'abord essayer de nous permettre de discuter de façon à l'aise, si je peux me permettre, à Alger. Parce que vous pouvez pas discuter d'un accord et vous avez aussi vous perdez des hommes d'une minute à une autre sur le terrain. Ça fait beaucoup de tensions. Et il serait plus facile qu'il y ait un cessez-le-feu, que les gens arrêtent d'attaquer, on regarde les documents et on travaille ensemble pour sortir le pays de cette crise. Mais cela n'empêche, moi je pense que c'est le fait qu'il soit respecté ou pas. Et les échos qu'on a eus d'Alger, je pense que ça ne peut pas empêcher les négociations d'Alger. Et même si on continue de le violer, on peut aboutir à un accord.
Alors aujourd'hui, il y a le président de la République qui estime que l'ombre de Yad Agali pèse aujourd'hui sur ces pourparlers d'Alger et que il peut mettre en cause à tout moment les avancées de ces pourparlers. Quel est votre avis sur cette position d'Yad Agali?
Vous savez, Yad a toujours pesé dans ces négociations d'air sur le plan de... Quand vous prenez tous les problèmes du nord du Mali, surtout à Kidal, parce qu'Yad n'a jamais été absent. En fait, on dit qu'il n'est pas là, mais il a toujours été présent à Kidal. Yad, c'est quoi? En réalité, ce n'est rien d'autre que ce système féodal qui n'arrive pas à s'adapter à la démocratie. Mmh. Yad, c'est aussi le meneur du mouvement en Sardine. Après, ils ont créé un mouvement qu'ils ont appelé les MIA, les mouvements islamiques de l'Azawad, mais après ils sont devenus HCIA. En réalité, ils ont juste changé de nom de groupe, mais c'est toujours le même groupe, le même meneur. Donc, il y a de bel et bien présents, parce que ces hommes sont toujours dans les négociations. Je prends l'exemple de Cheikh Gaoussa, qui est d'ailleurs côtoyé par la France et par les Nations Unies. Je prends le cas de l'Abbas Gintala, qui fut député de Kidal, et qui continue toujours d'avoir le soutien de la communauté internationale. Donc, moi, je donne vraiment raison au président de la République. Il y a des belles bien présents.
Alors, Boubacar Touré vient de faire son entrée dans ce studio. Boubacar Touré est, je le rappelle, le représentant du RPM à cette émission, du parti majoritaire, parti du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Merci de nous rejoindre, Boubacar Touré. Bonjour.
Bonjour.
Boubacar Touré, nous sommes donc toujours sur la suite de Alger. Alger 5 aujourd'hui. Les responsables des mouvements armés sont aujourd'hui à Alger, mais les tensions persistent toujours sur le terrain. 7 casques bleus ont été blessés, dont 4 graves. Quel est votre avis sur à la fois ces négociations d'Alger et la situation sur le terrain?
Bon, les négociations d'Alger, la situation sur le terrain, d'abord, c'est toujours déplorable qu'au moment où l'ensemble des partis s'engagent sur l'honneur, sur l'amour pour le patrie, à aller à des discussions pour juste aplanir et pour juste convenir de ce qu'il faut pour le pays, c'est pas en ce moment encore que d'autres se permettent, en violation des premières dispositions, notamment l'accord de Ouagadougou et bien d'autres accords, pour qu'ils se déplacent, qu'ils changent de position pour aller s'attaquer à d'autres citoyens, au point à enregistrer des blessés et des morts auprès des militaires des Nations Unies qui viennent pour nous accompagner. Et dans cet accompagnement sincère, il ne devait pas y avoir tout cela. Maintenant, ça c'est la situation sur le terrain, nous déplorons, nous présentons nos condoléances et nous souhaitons propre établissement pour les blessés. Mais par rapport à la négociation à Alger, et dans tous les cas, en matière de négociation, peut-être même si les armes ne se taisaient pas, tel n'est pas mon souhait. Mon souhait est qu'il n'y ait pas de bruit d'armes. Mais même si les armes ne se taisaient pas, si toutes les parties sont sincèrement engagées dans la discussion, le cinquième round devait se porter sur un document proposé par la médiation, qu'est le pré-accord. Est-ce que alors ça coince autour des points du pré-accord ou il y a d'autres préalables encore au pré-accord? S'il y a d'autres préalables, là c'est des prétextes. Ça veut dire que le fond véritable, on ne veut pas arriver à cette négociation-là. Ça veut dire qu'il y a des parties de mauvaise foi qui sentent et que ces négociations vont faire tomber des masques. Cela est clair. Donc, face à cette crainte, il faut différer toujours ces négociations qui, en fait, ne rentrent pas dans leur objectif. Mmh. Sinon, il n'y a aucune raison aujourd'hui que ça coince. Si on me disait ça coince autour du projet proposé par la médiation, au niveau de tel ou tel chapitre, j'ai dit alors les esprits intelligents qui se retrouvent ensemble trouveront toujours un compromis sans compromission.
Alors l'enjeu principal aujourd'hui de la médiation, c'est de pouvoir réunir toutes les parties à la table de négociation. La coordination refuse à ce qu'on la mette au même niveau que les membres de la plateforme. Quel est votre avis sur cette complication, encore une fois, du processus ?
Non, c'est ce que j'ai dit. En acceptant être autour de la table, je disais des masques vont tomber. Sinon, tout citoyen malien qui peut et qui doit contribuer à la recherche de solutions par rapport à cette crise triste que le pays connaît depuis un certain temps, pourquoi un fils demandera à un autre de ne pas être là, sur la table, autour de la table du moins. Maintenant, quand je rentrais juste, le midi était sur un des points et qui dénote carrément le vase communicant entre les différents mouvements avec des changements de nom. Cela est très facile parce que le récépissé n'est demandé nulle part. On s'assoit, on crée juste pour maquiller. Et c'est le premier ministre nigérien en un moment donné qui a...
Est-ce que vous faites référence à Anne Sardine qui s'est fondue en
CUA? Est-ce que j'ai besoin de faire référence? Est-ce que tu n'as pas compris ainsi? D'autant plus que le premier ministre nigérien en son temps, Bazoum, c'est le premier ministre nigérien, rectifié.
Ministre des Affaires étrangères.
Le ministre des Affaires étrangères nigérien, en son temps, a été clair. Et dès que Anne Sardine, Moujao, n'importe quelle autre appellation... Ce n'est qu'un système de vase communicant et de communication juste en fonction de quelle appellation nous arrange, sur quel théâtre. C'est tout. Et je crois que l'heure doit dépasser cela maintenant.
D'accord.
Nous devons dépasser cela, comprendre qu'il n'y a aucune distinction et des fils de ce pays ont pris des armes revendiquant la sécession, revendiquant ou voulant imposer le fédéralisme, d'autres ne sont pas d'accord. Et dans cette position, on les menace dans leur quiétude, dans leur tranquillité, et en les violant physiquement, intellectuellement, moralement, dans leur ville et village.
D'accord. Alors nous allons juste observer quelques secondes de pause avant de reprendre avec cette émission. Une émission qui va donc faire le point de la situation à Alger. Je rappelle que nous aurons notre envoyé spécial à Alger, Issa Fakaba Sissoko, et Maître Maliki Ibrahim Maïga vient juste de faire son entrée également dans ce studio. Maître est le représentant du COREN, du collectif des ressortissants du Nord, et il sera également avec nous pour nous donner son avis, l'avis de la société civile par rapport à cette situation, par rapport de façon globale à la situation que vit le Nord du Mali. Alors, à tout à l'heure.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, nous sommes donc à la deuxième partie du débat, le débat qui est consacré aujourd'hui au pourparlers d'Alger. Je rappelle que nous avons tenté, avec beaucoup de difficultés, à joindre les membres de la coordination. Initialement, Mohamed Ag Ibrahim Assalé devait normalement participer à cette émission et nous continuons toujours à le joindre au téléphone, mais malheureusement, cela sans succès. Alors, nous avons en ligne également Issa Fakaba Sissoko, notre envoyé spécial à Alger. Maître Maliki Ibrahim Maïga, représentant du COREN, est là avec nous. Boubacar Touré du RPM également est là. Et Sidi Mohamed Agalbaka est également avec nous. J'écorche le nom, mais il va me corriger tout à l'heure avec le nom. Donc, cette deuxième partie est consacrée au cessez-le-feu. Que vaut le cessez-le-feu? Alors, Maître Maliki Ibrahim Maïga, vous êtes du Coren. Vous prenez ce débat donc en vol, mais vous êtes connaisseur du dossier du Nord, puisque vous représentez la société civile du Nord à cette émission. Quel est votre avis sur ce cessez-le-feu et de façon globale sur les pourparlers d'Alger?
Merci, mon frère. Vous avez raison de dire que nous connaissons ce dossier en tant que collectif des ressortissants du Nord et que nous sommes la société civile du Nord. Nous sommes la société civile du Nord, la société civile plurielle, inclusive de toutes les ethnies composant cette partie du Mali qui est le Nord du Mali, constituée des régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti. Nous devons dire d'abord que, avant de donner notre opinion sur les pourparlers, nous déplorons au niveau du collectif des ressortissants du Nord la mise à l'écart de la vraie société civile du Nord du Mali. Et c'est déjà, et ça c'est de la part du gouvernement de M. Moussa Mara, et donc du pouvoir en place. Ce qui constitue un premier élément de violation des accords de Ouagadougou. Parce que les accords de Ouagadougou ont demandé la participation inclusive de toutes les communautés du Nord intéressées à cette crise, à la table de négociation. Ça ne signifie pas, or ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé des gens, qu'ils ont appelé société civile, et ils les ont juste entendus, et après la porte leur a été fermée. Il n'y a aujourd'hui que, en face de notre gouvernement, du gouvernement du Mali, au niveau des négociations d'Alger, que les terroristes du MNLA, d'Ansardine, de Boko Haram, répondant au nom du MNLA. De l'autre côté, vous avez un gouvernement dont les membres sont presque, je suis désolé, à part quelques-uns d'entre eux, ils n'ont pas une prise réelle de cette question dans sa profondeur, parce qu'en vérité, la plupart d'entre eux, au moment où les populations du Nord souffraient, ne se sentaient même pas concernées par cette question-là. Donc la vraie société du Nord, qui a défendu l'intégrité du territoire du Mali, avec ses moyens propres, avec ses arguments, avec dévouement, avec zèle, avec passion, cette société est mise à l'écart. C'est un des problèmes de notre pays. Mmh. Ça, c'est le grand problème, l'absence de reconnaissance dans ce pays-là. Maintenant, sur ce que se passe à Alger, je vous ai dit que la quintessence de la société civile du Nord n'est pas, contrairement aux indications de l'accord d'Alger impliqué. Le Coran n'est pas concerné. Et nous sommes à un stade où c'est des bénédictions que nous faisons. Déjà, en tout cas, ce qui transparaît des accords, si c'est appliqué, mon frère, vous allez assister à ce que j'appelle une apartheidisation du Nord du Mali. Et nous ne l'accepterons pas.
D'accord. Alors, ce point de vue est compris. Nous allons partir à Alger. Issa Fakaba Sissoko, est-ce que vous êtes avec nous?
Bonsoir, Fonsa. Bonsoir aux auditeurs à travers nos radios partenaires de Bamako et de l'intérieur.
Alors, Issa, vous venez peut-être d'entendre cette première réaction depuis que nous vous avons au téléphone de Maître Maliki Ibrahim Maïga du Coren, du collectif des ressortissants du Nord, sur la représentativité de la société civile dans ces pourparlers à Alger. Dites-nous aujourd'hui, quelle est la configuration qu'il y a aujourd'hui à Alger?
Alors, il faut rappeler d'abord que à cette nouvelle étape des négociations d'Alger, il y a trois délégations, celle du gouvernement du Mali, des mouvements armés de la coordination et de la plateforme. Maintenant, pour ce qui concerne de la représentativité des uns et des autres, je crois qu'à un autre niveau, les gens ont leur avis sur cette question.
Alors aujourd'hui, quelle est l'ambiance sur place?
Nous venons juste de finir avec la cérémonie dite de reprise des négociations directes. Il y a eu environ une dizaine d'interventions, notamment celle du représentant spécial de l'ONU au Mali, représentant spécial de l'ONU dans la crise du Mali, excusez-moi, celui de l'Union africaine, la médiation, les pays dits amis, notamment les pays du Chad, mais aussi le discours du médiateur, le ministre des Affaires étrangères algérien, qui a donc clôturé la cérémonie. Et dans ces différentes interventions, il y a un mot qui revient chaque fois, la nécessité pour les parties d'arriver à une paix. Et le même discours a été repris par le ministre malien des Affaires étrangères, le représentant de la coordination et le porte-parole de la CAPTEM. Tous sont unanimes qu'il faut aller vers la paix et que cette guerre n'a que trop duré. Mais entre le discours et les actes, il y a véritablement un pas à franchir. Mais notre crise est affichée ici.
Alors aujourd'hui, on a constaté la visite du haut représentant, de l'ancien haut représentant du président de la République à ses pourparlers d'Alger, qui a vraisemblablement évoqué dans un ton assez conciliant le fait que les acteurs doivent aujourd'hui évoluer la main dans la main. Est-ce que cette volonté du Premier ministre Modibo Keïta est appliquée sur le terrain?
Oui, avant ce soir, l'atmosphère était relativement tendue dans les couloirs de l'hôtel ici. Et puis, souvent, vous assistez à des scènes où des représentants de la coordination et de la personne se croisent sans vraiment se dire bonjour. Mais ce soir, après la cérémonie d'ouverture, ils étaient mélangés dans le car. Par exemple, le car dans lequel je suis rentré à l'hôtel, il y avait des représentants de la coordination et des représentants de la plateforme. Apparemment, il s'agit, selon les observateurs, d'un signe encourageant. Et puis, la poignée de main à laquelle nous avons assisté entre le ministre des Affaires étrangères malien et le représentant de la coordination, Bilal Al-Sherif. Bref, en apparence, la volonté est affichée. Mais cette rencontre intervient, il faut le rappeler, dans une situation de tension sur le terrain. Et c'est pour cela que le représentant de l'Union africaine et la médiation a insisté sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu sur le terrain. Base selon eux, d'une démarche indispensable vers la signature d'un accord.
Alors, Issa Fakaba, juste avant de repartir vers les autres invités, nous allons juste voir ce dernier point avec vous. La coordination refuse de se mettre à la même table que les membres de la plateforme. Est-ce que dans les discours, ce volet-là a été évoqué?
Ce soir, dans les discours, cela n'a pas été évoqué. Ça m'a amené à poser la question à un observateur qui estime que bon, ce discours est vraiment dépassé et que le débat n'est plus à ce niveau. Parce que quand vous voyez ce soir la configuration de la salle, il y avait une rangée réservée au gouvernement du Mali, une rangée réservée à la coordination, une autre rangée réservée au mouvement de la plateforme. Donc cela veut dire que le médiateur est d'accord que les trois parties ont légitimement leur place dans la salle des négociations. Et je crois qu'elle a les atouts pour convaincre l'autre partie d'accepter la présence de la plateforme à la table des négociations.
Merci beaucoup Issa Fakaba, restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors Sidi Mohamed Agalbaka, dites-nous, vous êtes du Gatia, dites-nous aujourd'hui qu'est-ce que la coordination reproche aux membres de la plateforme.
En fait, moi je pense que pour la coordination, nous avons péché. Du moment où nous nous battons pour l'intégrité territoriale du Mali, nous avons péché parce que nous avons refusé de rejoindre les islamistes, les djihadistes, et nous avons décidé de défendre l'honneur de notre pays qui est le Mali. Et la coordination nous reproche de ne pas contribuer pour attaquer Gao et Tombouctou, mais la coordination oublie que nous sommes des Gao et nous sommes de Tombouctou, ce sont nos parents. Et qu'à un moment donné, il va falloir assumer sa part de responsabilité. Quand nous avons été chassés de Kidal, on était obligés de nous armer et puis nous limiter à Tabankort. on ne dépasse pas en tout cas Tabankort pour aller vers le site. Si on ne descend pas jusqu'à Kidal et au-delà de Kidal, nous n'allons plus reculer. En fait, c'est ce qui pose le problème à la coordination, parce que la coordination se bat toujours pour l'indépendance du nord du Mali. La coordination est en train de discuter avec le gouvernement, avec la communauté internationale, mais elle n'a pas encore renoncé à son projet. Et c'est ce que nous condamnons, parce que la coordination a pris des engagements au Burkina Faso en reconnaissant l'intégrité territoriale du Mali, la forme laïque et républicaine de l'État. Donc elle n'a plus les droits de parler de notre pays qui n'est pas le Mali. Elle n'a même pas les droits d'avoir un drapeau qui n'est pas celui du Mali. Donc ça, ce sont les quelques problèmes qui nous posent à la coordination. Mais quand j'écoute votre correspondant tout de suite, moi j'ai fait Alger 1, j'ai fait Alger 2. En fait, si ce n'est pas dans la salle, il n'y a jamais de problème entre nous et la coordination. C'est des accolades, on mange ensemble, on boit ensemble. Mais
et
c'est
pourtant
seulement,
vous êtes opposé.
Et pourtant, c'est devant, seulement devant la médiation qu'elle essaye de faire sortir son côté jaloux. Ben, en fait, c'est son jeu, nous, ce n'est pas notre affaire. Maintenant, il faut juste, à un moment donné, qu'on aille vers cette paix. Il est temps. Maintenant, les djihadistes ne peuvent pas quitter l'Afghanistan, quitter la Libye, le Nigeria pour venir s'imposer dans notre nord.
D'accord.
C'est impossible.
Merci beaucoup, Sidi Mohamed Agalbaka. Vous êtes membre du GATIA, membre donc de la plateforme. Et Boubacar Touré, juste avant de vous donner la parole, je signale juste que nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec les membres de la coordination, mais sans succès. Alors, Boubacar Touré, la coordination refuse de s'asseoir à la même table que la plateforme. Aujourd'hui, la coordination reproche aux membres de la plateforme d'être trop proche de Bamako et de ne pas avoir de revendications politiques vis-à-vis des autorités maliennes. Quel est votre avis toujours sur ce lien entre Bamako et les membres de la plateforme?
Écoutez, précisons les choses. Être trop proche de Bamako, allons-y clair, non. Être pour l'unité nationale, être pour une république laïque, être pour une république où tous les citoyens du nord au sud, blanc, noir, vivent comme on a toujours vécu dans cette zone-là. Questionnons l'histoire. Chaque nomade malien a sa correspondance dans les familles sédentaires au bord du fleuve Niger. Et chaque famille sédentaire a son correspondant dans les familles nomades. Ça, c'est séculaire. Même si le découpage a limité le pays à cette taille que nous connaissons aujourd'hui, il n'y a pas ce problème-là. Donc, dire Gatia est proche de Bamako, non. Gatia est malien. Gatia revendique ce que tous les Maliens revendiquent. Si vous êtes opposé à cela maintenant, vous pouvez penser qu'ils sont proches de Bamako. Non, ils ne sont pas proches de Bamako, ils sont Bamako. Ils sont Kaï, ils sont Ségou, ils sont Sikasso, ils sont Tabankor. Ils sont Kidal. Il faut plutôt présenter la chose ainsi. Parce que je remarque souvent dans les débats, il y a des expressions péjoratives par rapport à Gatia, proximité avec le gouvernement, proximité avec ceci. Vous venez d'écouter le Coran. Le Coran partage les mêmes préoccupations que n'importe quel citoyen malien. À écouter uniquement le MNLA, est-ce que le MNLA, les éléments constituants du MNLA, je ne parle même pas d'une ethnie, son Raipel, Tamashek, Bambara, Bobo, etc. Non. Le groupe armé appelé MNLA, avec ses démultiplications et avec ses métamorphoses en plusieurs sous-groupes, qui sont tous en connexion avec les djihadistes, les terroristes, parce qu'ils veulent que le Nord Mali reste une bande incontrôlée, de cette bande jusqu'à la mer Rouge, jusqu'en Afghanistan, ils veulent maintenir cela. Au-delà de tout, il y a d'autres intérêts géostratégiques qui sont dans cette partie du Nord-là. Donc, partant, ils sont plutôt, c'est des Maliens qui sont au service de mettre le Mali à genoux pour des intérêts inavoués. Et toute négociation qui peut nous conduire rapidement à cela, il y a toujours des prétextes. Alors, si je ne veux pas discuter avec toi, je vais te dire que ta bouche sent, mais dans tous les cas, si tu es un être vivant, ta bouche va sentir.
Alors,
et la personne qui t'aime considère que ça sent très bien.
Alors nous allons poser une question qui est en lien avec les populations civiles, car nous avons un représentant de la société civile, mais nous le ferons juste après quelques secondes de pause.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani consacre aujourd'hui son débat, le grand dialogue, à ce qui se passe aujourd'hui à Alger. Les pourparlers d'Alger se tiennent au même moment où 7 casques bleus ont été blessés dans le nord du Mali, dont 4 graves. Et actuellement, donc, cette tension sévit à Tabankorte. Alors, nous avons 4 invités pour parler de cette thématique dans cette émission. Maître Maliki Ibrahim Maïga, membre du collectif des ressortissants du Nord, Boubacar Touré du RPM et également Mohamed Sidi, Mohamed Agalbaka du Gatia, dont membre donc de la plateforme. Et nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec les membres de la coordination sans succès. Nous sommes également en direct d'Alger avec notre correspondant, notre envoyé spécial, pardon, Issa Fakaba Sissoko. Alors nous allons donc poursuivre cette deuxième partie consacrée au respect du cessez-le-feu, juste avant d'entamer la troisième partie. Donc, Maître Maliki Ibrahim Maïga, vous êtes membre du collectif des ressortissants du Nord, le COREN. Dites-nous aujourd'hui, quel sens est-ce que l'injonction aujourd'hui du Conseil de sécurité des Nations Unies qui oblige les partis à respecter le cessez-le-feu a à vos yeux dans le cadre de la protection des populations civiles?
Oui, ce que je veux dire, c'est que pour nous, la première erreur de la communauté internationale a été de vouloir distinguer entre le MNLA et les autres. Entre le MNLA, Ansardin, Boko Haram, ainsi de suite. Vous savez, le premier porte-voix, le premier instrument du terrorisme au Mali, c'est le MNLA. Et quand j'ai entendu votre collègue dire, votre confrère dire que Bilal Agchérif, il a intervenu, comme on l'appelle, et que son intervention peut donner à espérer. Mais en vérité, Bilal Agchérif, il n'est aussi rien d'autre que le porte-voix de Iyad. Cela doit être compris de la communauté internationale. Et donc, la plus grande erreur et la plus grande faute, finalement, ça devient une faute. Nous pensons au niveau du Coran que certains éléments de la communauté internationale qui ont alimenté ce que j'appelle le complot contre le Mali, parce qu'il y a eu dans cette affaire, et ça continue d'ailleurs de se prolonger, un véritable complot contre le Mali, dont une des manifestations a été d'ailleurs le coup d'État du 22 mars 2012. Le complot contre ces gens-là continuent de vouloir brouiller les pistes en voulant coûte que coûte distinguer entre le MNLA et les autres, alors que c'est la seule et même entité terroriste et criminelle avec des dénominations différentes, des rôles préalablement convenus, exécutés avec une parfaite intelligence sur le terrain. Juste pour un rappel, parce que dans ce pays, on oublie très vite. On oublie très vite. Lorsque la ville de Kidal, les villes de Kidal, Gao, Tombouctou, sont tombées entre les mains des djihadistes en 2012, ceux-là qui disent avoir pris les armes, je veux parler des gens du MNLA, pour venir libérer entre griffes leur peuple opprimé, dont le territoire qu'ils occupent a été appelé pour la première fois dans l'histoire de cette contrée Azawad. Et d'ailleurs, ce mot lui-même renferme les germes d'une guerre civile au nord du Mali. C'est-à-dire qu'il faut que la communauté internationale comprenne que s'ils n'arrêtent pas d'accepter que Gao, Tombouctou, Kidal soient désignés. Désigné par Azawad, ça renferme les germes. Et ils le savent. C'est parce qu'ils le savent d'ailleurs qu'ils servent sur ça, d'une véritable guerre civile. Donc quand ils sont arrivés, la première des choses, que la deuxième mission après l'offensive médiatique qui a été accordée au MNLA, c'était de faire des exactions contre les populations. Les viols qu'on oublie aujourd'hui. On a oublié que des centaines de femmes ont été violées, de jeunes filles ont été violées à Gao. On a oublié qu'il y a eu des assassinats crapuleux les plus odieux à Gao, à Tombouctou, à Kidal, on a oublié. On a oublié que tout ceci est le fait du MNLA. En parfaite intelligence avec Ansardine, nous n'avons pas attendu de voir, après l'intervention française au niveau du Coran, la lettre d'Abdelmarek Kruder, Droukel, ou je ne sais pas Kruder comment il s'appelle, pour dire qu'on fasse attention. Ils sont en train de piéger, ils sont en train de jeter
tous toutes les populations du nord du Mali dans les bras d'Al-Qaïda pour que cette organisation criminelle instille des idées djihadistes. Donc les exactions ont été faites par le MNLA. Après, dans la même, pendant qu'ils cohabitaient Gao, en Sardine, ou plutôt le Moujao, délivre un numéro vert. Lorsque vous faites agresser par le MNLA, tout de suite vous appelez ce numéro vert, Moujao intervient pour vous sortir des griffes du MNLA. Et voilà comment certaines de nos populations, certains éléments des populations du Nord, qui se sont sentis abandonnés, c'est vrai, par leur propre armée, se sont retrouvés naïvement dans les bras du Moujao. Mais c'était en parfaite connaissance. Maintenant, nous, ce que nous disons sur les accords d'Alger, nous disons encore une fois que lorsqu'une résolution ou quand un accord est signé par toutes les parties, cet accord doit être respecté dans son entièreté. Que le premier élément du raccord, de l'accord d'Alger, pas d'Alger, de l'accord de Ouagadougou, c'est l'implication de la société civile dans les négociations. Vous avez écouté votre confrère, il dit que c'est à un autre niveau, ça veut dire qu'il n'a pas vu d'éléments véritablement représentatifs de la société civile. Donc nous avons dit, et la communauté internationale, c'est même dans les résolutions des Nations Unies, que contrairement aux fois dernières, c'est-à-dire en 1990, en 1996, en 2006, où c'est seulement les gens qui ont pris les armes, qui ont été écoutés, c'est avec eux qu'il y a eu des mauvais vivendi, qu'il y a eu des accords de signer, que cette fois-ci, les populations au nom desquelles ces gens prétendent parler, que ces populations soient entendues, que ces populations participent au tracé de leur devenir. Parce que ce qui est vrai, il y a Ibrahim Agalbaka qui est devant moi, Malko, mon jeune frère Malko. Mais au nom de quoi? C'est-à-dire quelle cécité intellectuelle, ou quelle cécité morale, ou quelle cécité physique a-t-elle pu prendre ceux-là, les observateurs de la question du Mali, pour accepter, se convaincre que le MNLA peut parler au nom des populations du Nord? Quelle cécité? Pourquoi continue-t-on d'entretenir cela?
La question reste posée. Je rappelle que Maître est avocat et c'est très difficile pour moi d'animer cette émission car il est en face de moi et c'est très difficile de l'interrompre. Mais malheureusement, heureusement, je profite donc de ce moment de vide pour lui prendre la parole. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, Boubacar Touré, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif. Tout le monde estime que ce rendez-vous d'Alger, l'avant-dernier, avant la signature de façon globale de l'accord de paix définitif à Bamako. Dites-nous aujourd'hui si les observateurs ont raison de croire en cela.
Je ne parle pas des observateurs. Moi, je continue à croire que le Mali va sortir de cette situation. Il y a eu des guerres les plus catastrophiques et ça a fini par des négociations. Surtout encore que plus on avance, plus les masques tombent, je dis. Le mot vaut son pesant d'or. Plus on avance, plus les masques tombent. Si cette guerre est pour le développement, c'est la fin du bruit des Kalachnikovs que le développement sera réel. Si cette guerre, c'est pour l'éducation, la santé, c'est en cessant de paniquer, de tuer, de blesser et de violer qu'on aura la solution. Et ce qui reste vrai, du sud comme au nord, population blanche et noire du Mali, tout le monde est convaincu que le MNLA en tant que tel ne peut pas gérer Kidal, a fortiori une partie du Mali. Donc, en un moment donné, que nos amis, nos partenaires se rendent à l'évidence, si c'est des questions économiques de richesse de ce pays-là à exploiter, ils doivent se rendre à l'évidence que c'est avec un État, une République, un pays laïque que cela est possible dans l'intérêt de tout le monde. La guerre n'a jamais été la solution. Ça peut être une guerre créée pour mettre le pays, les décideurs du pays à pilori pendant un temps, mais on ne pourra jamais mettre l'ensemble du peuple à pilori pendant tout le temps, sinon cet intérêt géostratégique, géoéconomique, de la partie septentrionale du pays ne sera au profit de quiconque.
D'accord.
Et que le MNLA se rende à l'évidence ils peuvent être utilisés, mais les dividendes, ce ne serait pas pour eux.
D'accord. Alors, nous allons voir du côté d'Alger. Issa Fakaba Sissoko, vous êtes l'envoyé spécial du Studio Tamani à ses pourparlers d'Alger. Dites-nous aujourd'hui, quels sont les enjeux de la médiation?
Alors, l'enjeu fondamental, selon le médiateur, c'est de parvenir à un accord. En tout cas, de jeter les bases d'un accord qui devrait être signé en principe à Bamako. Donc, c'est ça l'enjeu principal. Et pour argumenter cela, le médiateur disait ceci, que nous sommes face à l'histoire et que nous n'avons pas le droit de ne pas faire quelque chose pour les générations qui vont venir. Une manière pour lui de mettre l'accent sur la nécessité de parvenir à un accord. Et le ministre malien des Affaires étrangères, Abdel Diop, aussi, a paraphrasé cette idée en disant que nous n'avons pas le droit de décevoir le peuple malien. Donc, l'enjeu fondamental, c'est vraiment de jeter les bases d'un accord de paix global et définitif, comme disent les acteurs.
Alors, on se rappelle, chaque rendez-vous d'Alger, la communauté internationale lance une certaine pression sur le dos des différentes parties. Aujourd'hui, est-ce que vous avez senti dans les discours ou bien avec vos confrères sur place, si la communauté internationale met une certaine pression autour des acteurs?
Je ne sais pas si c'est une pression, mais je rappelle cette partie de l'intervention du représentant de l'Union africaine, M. Pierre Bouéa, qui dit qu'il faut que l'investissement pour la paix au Mali produise des effets. Il faut que l'investissement pour la paix au Mali produise des effets. C'est le terme qu'il a utilisé. Il a renchéri en disant qu'il faut prendre des risques pour la paix. On ne fera pas la paix à votre place. C'est le message qu'il a lancé aux différents acteurs. Comme pour dire qu'il y a une certaine lassitude de partenaires du Mali dans cette crise, et qu'aujourd'hui, et qu'il y a même cette lassitude qui se sent aussi, même chez les acteurs sur le terrain, même si bon, ils essayent de ne pas la montrer. Donc, pour les acteurs et pour les représentants de la communauté internationale, cette crise n'a que trop duré et que c'est le moment
de mettre fin.
Mais le médiateur est catégorique. Il dit que Alger, un accord de paix à Alger n'est que le commencement, et que comme pour dire que le vrai
la
travail va commencer selon lui. Voilà, c'est ça. Et que le vrai travail va concerner plutôt l'application de cet accord-là.
Merci beaucoup, Issa Fakaba Sissoko. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Studio Tamani pour parler d'Alger. Alors, Maître Maliki Ibrahim Maïga, vous êtes de la société civile, membre du collectif des ressortissants du Nord. Donc, vous avez le dernier mot pour clore cette émission. Vous êtes représentant de la société civile. Quel est votre avis aujourd'hui par rapport à la situation de la société civile dans le Nord du Mali? Et s'il y a des actions à entreprendre, quelles pourraient être ces actions? Et de la part de qui?
Nous estimons que, d'abord, nous prions pour que ces accords aboutissent, ces négociations aboutissent dans l'intérêt de notre pays, parce que dès que c'est dans l'intérêt du pays, c'est que c'est pas dans l'intérêt d'un bandit. Le premier élément. La deuxième chose, il ne faudrait pas que dans ce pays il y ait ce que j'appelle un vice repetita. C'est-à-dire que la prime soit donnée à ceux-là qui prennent les armes chaque fois, et en retour, notre pays, pour faire plaisir, écrase ceux qui s'engagent pour lui. Vous savez, en 94,
en deux mots,
vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la signature du pacte national,
c'est presque fini.
Tous les éléments du Gandakoy qui se sont engagés pour le Mali, mais ont été écrasés par ce pays-là.
Et qu'est-ce que vous souhaitez?
Mais ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement, notre gouvernement, soit à l'écoute des populations. Nous n'accepterons pas des accords taillés sur mesure
au profit des bandits.
Le gouvernement sera donc attentif à ces propos de la société civile. C'est donc la fin de cette émission, une émission consacrée encore une fois au pourparlers d'Alger qui doivent normalement rentrer dans leur phase décisive. Cet après-midi à Alger, nous avons fait le point avec notre envoyé spécial Issa Fakaba Sissoko, Maître Maliki Ibrahim Maïga, le représentant du collectif des ressortissants du Nord était là également avec nous. Boubacar Touré du RPM était là et Sidi Mohamed Agalbaka du Gatia était également là avec nous. Nous avons tenté en vain de rentrer en contact avec les membres de la coordination. Sans succès, je suis Famoussa Sidibé. Petingera était à la mise en onde et Nuhum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mauni.
Chenibiri. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.